Acquérons-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, de la vie qui n'est que vie. Le Christ nous dit, je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Ben, ces paroles du Seigneur qui ont habité notre méditation de ce matin par rapport au mystère de l'Eucharistie, du sacrement de l'Eucharistie, nous habitent maintenant. Nous allons simplement, là, accueillir la parole de Dieu sur la passion même du Christ. Alors évidemment, quelques jours de l'entrée dans la Semaine Sainte. Comment ne pas penser à toute la richesse de ce qui va nous être offert là, par rapport à l'entrée là, dans l'accueil de ce mystère de la croix du Seigneur. Puis combien de fois nous avons médité sur la passion du Christ. Mais peut-être tout d'abord, nous allons tout simplement là, devant la croix du Seigneur, nous laisser saisir par ces paroles de Paul que je vais reprendre dans quelques instants. Ma vie d'aujourd'hui, je la vis. Dans la foi au Fils de Dieu, il m'a aimé et s'est livré pour moi. Et nous pouvons chanter aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli, par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli, par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Passion du Christ. Oui, c'est vrai, tous ces textes-là que nous allons méditer tout au long des jours qui viennent. Les récits de la Passion. Deux récits de la Passion, c'est l'année Saint-Luc. Alors, dimanche des rameaux, ce sera la Passion selon Saint-Luc. Et puis, le Vendredi Saint. Vendredi Saint, Passion selon l'évangile de Jean. Alors, accueillir tout d'abord la parole de Dieu, puis l'accueillir aussi avec d'autres textes. Et je m'arrêterai à quelques-uns de ces textes. Je ne vous ai pas donné les références précises, parce que les références, elles sont là, dans notre livre, de présentant, que ce soit Prions en Église, que ce soit Magnificat ou le Missel. Mais pour introduire peut-être la manière là dont l'Esprit nous donne d'accueillir le mystère de la passion du Christ dans le mystère de notre vie, là, au plus profond de ce que nous pouvons vivre. Parce que le Christ là, nous appelle à entrer dans sa passion, mais il ne nous appelle pas comme de l'extérieur. Le Christ nous rejoint dans tout ce qui nous passionne aux deux sens du mot, c'est-à-dire le désir, oui, désir vraiment d'être à lui, le désir de vivre dans la vérité, dans l'amour, désir du Seigneur qu'il a jeté dans nos vies, comme je l'ai dit plusieurs reprises, et en particulier ce matin, en parlant de l'Eucharistie, j'ai désiré d'un grand désir. S'il a désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec nous, c'est pour que nous vivions de son désir. Le Christ est entré dans notre passion pour que nous puissions sans cesse entrer dans sa passion. Vous savez, c'est la fameuse citation petit livre de Saint Placide, du petit Saint Placide, prier. C'est passer ta vie à passer dans ma vie. Et quand nous méditons sur la passion du Christ, oui, c'est l'événement de la passion, c'est le récit, c'est quelque chose, enfin, là, qui doit nous habiter, mais nous habiter pas simplement dans l'intelligence de la foi, chose très importante, mais dans cette communion, mystère même du Christ. Alors, les récits de la passion, les chants du serviteur. Voilà ce qui sera, si vous voulez, l'essentiel de mon propos, avec bon, quelques références, évidemment, ce n'est pas tous les textes que je vais lire, mais peut-être là, comme dispose d'un peu de temps, voilà, aujourd'hui, puis dans les jours qui viennent de la retraite, hein, je crois que c'est très important de pouvoir lire paisiblement les chants du serviteur, les quatre chants du serviteur que nous avons dans les prochains jours, le lundi saint, mardi, mercredi et vendredi saint, les chants du serviteur. Dans le prophète Isaïe, dans le deuxième Isaïe, et puis lire aussi la passion selon saint Luc, puisque on a lu déjà chapitre 22, hein, l'institution de l'Eucharistie, puis voilà, c'était déjà l'entrée dans le mystère de la passion. Mais je vous propose de faire cette lecture avec, dans l'esprit, dans la tête et dans le cœur, deux passages de l'Écriture. Le premier, c'est Galates. Galates, au chapitre 2, verset 20. Avec saint Paul, pouvoir dire ces paroles qui, justement, nous donnent d'entrer dans le mystère de la passion du Christ au cœur de notre passion humaine. Passage que nous connaissons bien, que je commenterai en quelques mots. Paul dit ceci. Avec le Christ, je suis un crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Tous ces mots comptent. On peut le traduire d'ailleurs de la façon suivante. Ma vie présente, ma vie aujourd'hui, ma vie d'aujourd'hui, dans la chair, c'est-à-dire dans la condition humaine, je la vis. Dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi, arrêtons-nous à ces mots. Ma vie d'aujourd'hui, ma vie telle qu'elle est, dans la condition humaine, c'est-à-dire avec tout ce que je vis, l'aujourd'hui de ma vie, de quoi est fait cet aujourd'hui de ma vie? Vous voyez, ça s'inscrit dans une histoire, c'est une étape nouvelle, c'est aussi un moment où peut-être il y a des choses qui me paraissent tellement difficiles quelquefois, pleines de questions, d'autres qui sont dynamisantes. Il y a des jours où je suis plus dans un climat de paix, d'autres plus dans un climat de souffrance, un peu voilà, de oui, comme d'impuissance, ma vie d'aujourd'hui dans la condition humaine. Dans la condition humaine, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui caractérise aussi cette étape dans ma condition humaine? Ça peut être, oui, des questions de santé, ça peut être des préoccupations, ça peut être des prises de conscience aussi, qui nous font... ou bien qui nous stimulent ou qui nous font souffrir. C'est dans toute notre vie relationnelle aussi. Des fois le manque de relations, des relations qui sont modifiées, qui ont changé, puis des préoccupations qu'on nous confie, plein de choses qui nous atteignent. ce que je vis, ce que j'éprouve, je viens de le dire, et ce que j'espère. Voilà, c'est là qu'on est tout à fait aussi dans le cheminement de l'année jubilaire, année de l'espérance, pèlerin d'espérance. Mais qu'espères-tu? Que voudrais-tu voir advenir? Qu'est-ce que tu voudrais voir changer? Oh ben certes, plein de choses, hein. Et puis, je vais dire, la prière de l'Église, hein, ben c'est pas une prière qui restreint notre champ d'espérance. C'est pas une espérance étriquée. Et souvent, on dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Oui. Mais attends, mais laisse-toi quand même habiter, quoi. Dieu fait toutes choses nouvelles. Oui, mais je le perçois pas. D'accord? Ne pas non plus, je l'ai dit ce matin avec l'intention de prière, hein, ne permet pas que la dispersion nous aveugle. Plein de choses qu'on a à dire, mais quelquefois on les laisse advenir. Oh là là, toutes les informations, j'ai entendu aujourd'hui tout ce qui a été dit. Ben, qu'est-ce que j'en fais? Ben, si j'en fais simplement un tourbillon intérieur, bon, si je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça qui est difficile aussi quand on prépare une prière d'intercession, une prière universelle. Et qu'on est là, plusieurs on dit surtout faut pas oublier, hein, tel événement qu'il y a dans le monde, ceci et cela. Faut pas oublier. Mais en même temps, on n'est pas partout. Et si on se croit partout, on n'est nulle part. Mais quand même, l'un et l'autre. C'est-à-dire, là où je suis, mais avec un cœur ouvert, quoi. Ma vie d'aujourd'hui, ce que je vis, ce que j'éprouve, ce que j'espère, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Voilà. La foi. Quelque chose en moi qui est touché de ma foi. Ah, mais oui, mais quand on a la foi. Mais... C'est ce que m'avait dit une personne une fois, une personne vraiment bien enracinée dans la foi. Mais qui m'a dit ceci, célibataire, et puis c'était quelqu'un dans sa famille là qui venait de mourir, et puis elle avait parlé comme ça à la personne, à la concierge. Et la concierge, hein, cette femme, là, avec sa manière aussi humble, et puis elle lui avait dit, vous savez, je vous souhaite la foi. C'est une chose qu'on oublie de souhaiter quelquefois à des gens. Et pourtant, je mesure ce que peut-être vous pouvez ressentir, elle le disait avec ces mots, hein, « Je vous souhaite la foi. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu. » Puis remarquez bien ceci, hein, saint Paul ne dit pas d'abord « Je crois en lui. » Non, il m'a aimé dans la foi au Fils de Dieu. Il m'a aimé et il s'est livré pour moi. C'est-à-dire, voilà, ce qu'il accueille, c'est le don de Dieu. Oui, il s'offre pleinement à Dieu, sa vie, la met entre les mains du Seigneur, mais il accueille l'offrande même du Christ. Il y a, vous savez, des hymnes, là, qui apportent une vraie lumière. Pense à cet hymne où, là, on contemple la croix du Christ, là, et on dit, voilà, ses bras, là, ses bras ouverts en croix dressent vers lui l'angoisse du monde et portent vers lui nos cœurs. C'est-à-dire que les bras ouverts du Christ, ils reçoivent la détresse. Ils reçoivent tout ce que l'on souffre avec d'autres, pour d'autres dans le monde. On peut tout mettre en ses... Mais lui aussi, il nous prend dans ses bras. C'est pas simplement toute la misère du monde et la misère qui nous affecte à travers des souffrances, des deuils, à travers telle mauvaise nouvelle là, qui nous affecte, parce que c'est la nouvelle des autres, mais comment ne pas le ressentir aussi intérieurement? Les bras ouverts en croix du Christ prennent la misère du monde, mais ils prennent aussi nos cœurs, parce que lui peut le dire en vérité. Voilà. Tout d'abord, méditer la passion du Christ, lire la passion du Christ, c'est là, se mettre en présence de ce don de Dieu. Ma vie, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Il m'a aimé et il s'est livré pour moi. » Et alors maintenant, c'est vrai, ces chants du serviteur. Alors là, quand on pense à l'espérance du peuple de Dieu, on pense à l'espérance à travers le désert, mais un des creusets terribles, plus terribles encore que le désert, ça a été l'exil du peuple à Babylone. Ça a été ce peuple exilé, là, chassé de chez lui. Il a résisté, mais vraiment, il y a eu déportations sur déportations successives, et puis ça va durer quand même 70 ans. Entre la première déportation, 597, 538, en Jésus-Christ, eh bien, voilà. Eh bien, ces récits, l'Église nous donne de les entendre. Et nous donne de les entendre, là, au cours de la Semaine Sainte. Alors, peut-être, tout simplement, d'un seul coup, dans les jours qui viennent, mais prendre, là, un des chants du serviteur. Alors, simplement pour introduire ces chants du serviteur, pour que cette parole de Dieu ne reste pas simplement là comme quelque chose, qui nous informe, mais comme quelque chose qui nous transforme. Eh bien, lire tranquillement. Je pense, si vous voulez, premier chant du serviteur, lundi. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit aux nations, il proclamera le droit. Et puis, mardi, simplement je ne fais que tourner les pages. C'est dans le prophète Isaïe, le deuxième Isaïe, toujours, chapitre 49, mardi. Écoutez, île lointaine, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a prononcé mon nom. Il m'a dit, tu es mon serviteur. En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est pure perte. Et il entend ces paroles, je fais de toi la lumière des nations. Et puis, mercredi 50, le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse une parole soutenir celui qui est épuisé. Portrait du serviteur encore. Et puis, après, il y a la messe chrismale, le jeudi saint, et puis, de nouveau, le vendredi saint. Alors, le Vendredi Saint est quelque chose de caractéristique aussi par rapport au chant du serviteur. Ce chant du serviteur, là, que l'on entend d'une manière particulière. Voilà. Je vais dire. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Au début, le Seigneur parle à son serviteur. Le serviteur lui parle, et puis là, c'est le Seigneur qui nous présente son serviteur. « Mon serviteur réussira, dit le Seigneur, il montera, il s'élèvera, il étonnera les nations. Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé ? Pourtant le serviteur a passé comme une plante chétive. » A poussé comme une plante chétive, une racine en terre aride, il était sans apparence. Alors, en quoi y a-t-il là une expression étonnante de l'espérance ? Il y a un renversement qui s'opère. Le peuple est à Babylone. Et la question que se pose le peuple, mais Dieu, que fait-il ? J'allais dire, un langage un peu direct et cru, que fabrique-t-il Dieu ? Parce que ce peuple, qu'est-ce qu'il voit ? Il est là, le peuple qui a mis sa foi en Dieu. Et puis, il est dans un pays qui l'opprime. Et tout semble réussir à tous ceux qui ont la force et la violence de leur côté à leur service pour opprimer les autres. Babylone triomphante. Et alors, quel renversement est opéré dans les champs du serviteur? Dieu, que fabrique-t-il? Mais Babylone, que fabrique Babylone? On fabrique des dieux à l'image de l'homme. Tout ce qu'il y a de volonté de puissance, eh bien on le projette en Dieu. Tout ce qu'il y a de volonté de puissance en l'homme, on le projette en Dieu. C'est-à-dire, Dieu, eh bien c'est le paroxysme, disons, là, ben, c'est-à-dire l'excellence, entre guillemets, point d'exclamation, de tout ce que l'homme porte en lui de convoitise. Babylone fabrique des dieux à l'image de l'homme. Et le peuple d'Israël, le peuple qui souffre, eh bien, il y a un renversement. C'est que notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Alliance, il fabrique un homme à la ressemblance de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le serviteur, c'est un homme, c'est un peuple. Vous savez, dans la Bible, bon, j'en prophète Saint Matthieu, non, je veux dire, dans l'évangile Saint Matthieu, à un moment, il y a ce chant du serviteur qui intervient. Et pour, voilà, éclairer ce que vit le Christ et le mystère du Christ. Alors, ça se fait de la façon suivante, pourrait-on dire. Babylone, des dieux à l'image de l'homme. C'est-à-dire qui domine, qui opprime, qui tue. Le Dieu d'Israël, oui, il est toujours là. Et il est en train de façonner un peuple, de façonner quelqu'un, là, une personnalité corporative, comme on dit quelquefois, comme on parle du serviteur, à l'image de Dieu. Capable de comprendre, capable d'aimer, capable de se donner jusqu'au bout. Le serviteur, voilà, qui lui sera victime aussi de la violence, qui sera incompris, mais c'est de lui que vient le salut. Je pense qu'il est très important de voir ainsi, à travers tout ce que l'on peut vivre au cours d'une semaine, enfin, puis les semaines de, j'allais dire, semaine de la Passion, semaine pascale, après, toutes ces semaines, ces temps forts, sont des temps où la parole de Dieu est riche. Mais la parole de Dieu ne peut que descendre en nous-mêmes pour nous façonner. Le Seigneur nous façonne et nous façonne par son amour. Alors, je voudrais dire deux choses. Quand on pense à la passion du Christ, et je pense, si vous voulez, en particulier à ce passage dans l'évangile de Luc, puisque moi, ce que je vous propose, c'est de lire attentivement le récit de la passion, voilà, préparé à le lire, puisque nous le lirons dimanche des Rameaux, eh bien, voilà, en Saint-Luc. Oui, il y avait l'Eucharistie, la scène du Seigneur, chapitre 22, il y a l'agonie, Mont des Oliviers, puis tous les récits que nous connaissons. Mais je vais jusqu'au chapitre 23, et en particulier à la mort de Jésus. Chapitre 23, versets 44 et suivants. C'était déjà presque midi, et il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures, le soleil ayant disparu. Alors le voile du sanctuaire se déchira par le milieu. C'est-à-dire, voilà, c'est l'ouverture là, de tout ce que qu'il y a dans le monde de ténèbres, de puissance de mort qui va s'ouvrir à autre chose. Jésus poussa un grand cri et dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et c'est le psaume 21, psaume 22, vendredi 3, milieu du jour. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et dans Matthieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et sur ces mots, il expira. Voyant ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu en disant « Sûrement, cet homme était juste. » Alors arrêtons-nous à ces mots. Là, en Saint-Luc, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et puis, en Matthieu, qui cite plus explicitement le psaume, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et dans le psaume, « Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tous les jours et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. » Ce cri du Christ, il ne faut pas le minimiser. C'est vrai quelquefois, on peut le dire peut-être, mais on le minimise. Quand on dit « Ah mais oui, mais vous savez, c'était quand même un chant. Déjà, regardez la suite, hein. Comment ce psaume se termine par un acte de foi ?» Ben, faut pas oublier quand même, hein, qu'il est allé au plus profond de la souffrance, hein, passer trop vite à l'action de grâce. Alors, il y a un commentaire que je trouve très beau. Il n'est pas de tout récent, mais c'est dans ses livres admirables de Jacques Guillet. Jésus-Christ dans notre monde, Jésus-Christ devant sa vie et sa mort. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? De cette parole, la plus audacieuse des évangiles, deux données subsistent apparemment inconciliables. D'une part, le cri de détresse, l'expérience d'abandon du lien qui se défait, et de l'autre, le maintien du possessif, mon Dieu, du lien indissoluble alors même qu'il paraît se défaire. Sans doute, disait le père Guillet, est-ce dans cette direction que les évangiles dirigent notre regard. Le Fils de Dieu est celui qui est capable de vivre à la fois cette certitude et cet abandon. Pour tenir au Père dans cette horreur, ce vide, pour demeurer fixé en Dieu, alors qu'il est privé de toute défense, de toute protection, de tout appui intérieur, il faut qu'entre Dieu le Père et Jésus subsiste un lien invulnérable à toutes les atteintes, plus profond que toutes les expériences, plus solide que la mort. Il n'y a que le Christ qui peut vivre cette détresse qui va jusqu'au bout de l'expression de la détresse et en même temps dire « Mon Dieu !» Ce lien indissoluble que rien ne pourra défaire alors que tout pourrait le mettre en doute. Et alors c'est là que nous retrouvons ces mots de Paul à la fin du chapitre 8. Je les ai déjà cités, mais je le dis, je le lis à nouveau. Chapitre Romains, à la fin du chapitre 8, verset 31 et suivant. Mais je commence au verset 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Qu'est-ce qui peut nous faire douter de l'amour du Christ ? La détresse ? L'angoisse ? La persécution ? La faim ? Le dénuement ? Le danger ? Le glaive ? Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces et hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tel est l'accomplissement de l'espérance d'Israël, manifesté dans les champs du serviteur, au plus profond de la détresse, là, de la dérédiction. Eh bien, Dieu, que fait-il? Il façonne son serviteur, un homme, un peuple. Et cet homme qui portera en lui toute la misère du monde, c'est le Christ. C'est le Christ. Toutes les blessures qu'il peut y avoir, c'est le Christ. Alors, s'il y a un témoignage, bon, il y en aurait plein de témoignages qu'on peut entendre, mais il y en a un, là, que j'avais recueilli, et qui, pour moi, est toujours un témoignage qui m'a paru très fort. Alors, on va être là. Bon, je pensais tout d'abord à ce qu'exprime, avant le témoignage, le pape, hein, Benoît XVI, quand il parle de l'espérance. Nous avons besoin des espérances, des plus petites ou des plus grandes, qui au jour le jour nous maintiennent en chemin. Mais sans la grande espérance, qui doit dépasser tout le reste, elles ne suffisent pas. Cette grande espérance ne peut être que Dieu seul, qui embrasse l'univers, qui nous propose et nous donne ce que seuls nous ne pouvons atteindre. Dieu est le fondement de l'espérance, mais non pas n'importe quel Dieu avec une minuscule, comme je l'ai déjà cité ou dit en présentant ce texte, mais le Dieu qui possède un visage humain et qui nous a aimés jusqu'au bout, chacun individuellement et l'humanité tout entière. Son règne n'est pas un au-delà imaginaire placé dans un avenir qui ne se réalise jamais. Son règne est présent, là où il est aimé et où son amour nous atteint. Seul son amour nous donne la possibilité de persévérer jour après jour, sans perdre l'élan de l'espérance, dans un monde qui par nature est imparfait. Et en même temps, son amour est pour nous une garantie qu'existe ce que nous pressentons vaguement et que cependant nous attendons au plus profond de nous-mêmes, la vie qui est vraiment vie. Hein, parole extrêmement, extrêmement forte, hein, le Dieu qui a visage humain, c'est-à-dire le Dieu qui s'est fait l'un d'entre nous pour que nous soyons vraiment libres et que nous puissions connaître, hein, la force de son amour. Alors si je n'ai pas apporté le texte, hein, ce témoignage, ben je lirai demain, ça permettra de faire un... Ah si, mais le voilà. Ce texte, hein, moi qui m'a toujours beaucoup marqué, parce que, bon, c'est quelque chose aussi qui touche beaucoup, vous savez, on est proche, hein, de tous ces martyrs, martyrs d'Algérie, là. Mais là, c'est le martyr de Pierre Claverie, qui était l'évêque d'Orléans. Et il se trouve, je dis Orléans parce que ça me fait un rapprochement avec une autre situation que j'avais connue. Il était devenu évêque d'Oran en 1981. Et puis, voilà. Peu de temps avant sa mort, il a été assassiné à Oran le 1er août 1996. Et 6 semaines auparavant, il était en France. Il était au couvent, au monastère des Dominicaines de Prouille. Et il avait dit ceci. La passion dont Jésus nous a donné le goût. Voilà le titre, hein, un peu de ce qu'on a donné à ce qu'il avait dit ce jour-là. Depuis le début du drame algérien, on m'a souvent demandé « Que faites-vous là-bas? Pourquoi restez-vous ? Secouez la poussière de vos sandales, rentrez chez vous. » Chez vous. Où sommes-nous chez nous? Nous sommes là-bas à cause de ce Messie crucifié. à cause de rien d'autre et de personne d'autre. Nous n'avons aucun intérêt à sauver, aucune perversion masochiste ou suicidaire. Nous n'avons aucun pouvoir, mais nous sommes là, comme au chevet d'un ami, d'un frère malade, en silence, en lui serrant la main, en lui épongeant le front, à cause de Jésus. Parce que c'est lui qui souffre là, dans cette violence, qui n'épargne personne, crucifié à nouveau dans sa chair, de milieu d'innocents, comme Marie, sa mère, et Saint Jean, Notre-Dame du Calvaire. Nous sommes là au pied de la croix, où Jésus meurt, abandonné des siens, raillé par la foule. N'est-il pas essentiel pour le chrétien d'être présent dans les lieux de souffrance, dans les lieux de déréliction et d'abandon? Où serait l'Église de Jésus-Christ, elle-même corps du Christ, si elle n'était pas là d'abord? Je crois qu'elle meurt de ne pas être assez proche de la croix de son Seigneur. Si paradoxal que cela puisse paraître, et saint Paul le montre bien, la force, la vitalité, l'espérance chrétienne, la fécondité de l'Église viennent de là, pas d'ailleurs ni autrement. Tout le reste ne pourrait être que poudre aux yeux. Elle se tromperait, l'Église, elle tromperait le monde si elle se situait comme une puissance parmi d'autres, comme une organisation humanitaire, un mouvement évangélique à grand spectacle. Elle peut briller. Elle ne brûle pas du feu de l'amour de Dieu, fort comme la mort, comme le dit le Cantique des Cantiques. Car il s'agit bien ici d'amour, d'amour d'abord et d'amour seul, une passion dont Jésus nous a donné le goût et tracé le chemin. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Eh bien voilà. Méditation sur les textes que nous lirons personnellement, nous allons lire personnellement, si c'est l'inspiration que le Seigneur nous donne là, pour ce temps de retraite spirituelle, que nous célébrerons aussi en Église, et que nous vivons au cœur de ce monde d'aujourd'hui. Ma vie d'aujourd'hui, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Alors, on peut dire dans sa totalité le psaume 21. C'est vrai que tout se termine par cet acte de foi et d'espérance, mais c'est pas sans passer par l'épreuve où l'espérance se purifie dans ce creuset. Ça ne veut pas dire la souffrance pour la souffrance, non. Et vous savez, c'est tellement difficile de parler de la souffrance, de donner des mots qui invitent à avoir le courage, l'espérance au cœur de la souffrance. En définitive, on ne peut jamais les déclarer à d'autres. On peut tout simplement être là, en silence, et quelquefois, soi-même, être dépassé par les mots que l'on peut dire, mais en sachant que celui qui les dit, c'est celui à qui nous disons « Mais à qui irions-nous, Seigneur ? Et vers qui pourrais-je conduire l'autre ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, et c'est toi qui as donné ta vie, qui peut le dire d'une façon encore plus éclatante que ce que j'essaie de dire dans ma vie et dans mes mots. »